Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Ma sœur, quand j'avais découvert mes dons, c'était lors de la naissance de son premier enfant. Elle avait eu une césarienne et elle avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer. Elle avait extrêmement mal au ventre. Et je me suis dit, bah voilà, elle a mal, je vais essayer. J'ai posé mes mains dessus, elle m'a regardé et comme il y avait mon père qui était dans la salle, elle m'a rien dit du tout. Et quelques jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais David, c'était incroyable, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur, ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pu plus me mouvoir. Mais j'ai pas pu te le dire parce qu'il y avait papa dans la salle et je voulais pas qu'il te prenne pour un fou.
Bienvenue dans la saison 3 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. David a 37 ans. Il se décrit comme quelqu'un d'ultra normal. C'est un employé de banque à Genève qui n'a jamais cru aux pouvoirs invisibles. Il n'a jamais rejoint aucune secte. Il ne revendique d'appartenance à aucune religion. Il y a 3 ans, au gré d'une rencontre, il s'est découvert un don de magnétiseur. Depuis, 1250 personnes l'ont appelé à l'aide. Il raconte sa surprise, ses doutes, mais aussi les raisons qui le poussent à taire une activité parallèle parfois difficile à concilier avec une vie familiale ou professionnelle.
Bonjour, je m'appelle David, J'ai 37 ans. Mes parents viennent d'Espagne, ont immigré pendant l'époque de Franco. Ils nous ont inculqué les valeurs suisses. On ne s'est jamais senti émigré. À la maison, on parlait espagnol, à l'extérieur, on parlait français. Et je suis né et vis actuellement à Genève.
Est-ce que dans votre enfance, vous avez grandi avec, je ne sais pas, des histoires de dons ?
Non, pas du tout. Et j'en avais même peur. J'avais très peur de tout ce qui était tarologie, les cartes, les voyantes. J'ai toujours été cartésien. Ma sœur, qui est plus jeune que moi, elle allait souvent dans des salons de tarologie, elle allait tirer des cartes. Elle me parlait de tout ça. Mais moi, l'invisible, pour moi, me faisait peur.
Vous étiez croyant,
J'ai eu une grande période où j'étais athée. Je suis devenu athée par rapport à tout ce qui m'était arrivé depuis mon enfance, parce que j'étais différent physiquement. J'ai une ptose congénitale, c'est que je n'ai pas de muscles à une paupière, donc elle descend. Et elle était beaucoup plus prononcée quand j'étais petit. Et j'ai subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de moqueries en disant « crevé, tu me vois, tu me vois pas ». Et quand on est petit, quand on est dans la construction du soi, et ben malheureusement, ben on part avec des racines qui sont pas bien ancrées et on doute beaucoup. Ma maman me donnait mes cours de catéchisme. Je comprenais pas ce qu'on nous disait dans la Bible qu'il faut donner faire le bien alors que je voyais qu'à l'extérieur, moi j'essaie de donner le bien. J'étais très émotif, j'étais vraiment dans l'amour, et je me recevais en fait que des claques par rapport à la vie. Et là, je me suis fermé totalement et j'ai vécu pendant 6-7 ans, en tout cas, je croyais plus en rien, absolument plus en rien. Donc, j'ai pas eu une enfance facile, j'ai eu beaucoup de moqueries. Et malgré tout, ça a été ma force. Et surtout quand on m'a découvert ces dons, où encore une fois, en plus du physique, j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres, et ça m'a aidé, si vous voulez, par la suite. Cette charge que j'avais gardée, cette émotion que j'avais gardée à l'intérieur de moi, elle s'est dissoute quand je me suis dit « Ok, je me retrouve encore dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en souffre et que je me cache ? Ou au contraire, j'accepte et je vais de l'avant ?» Et c'est ce chemin-là que j'ai pris et j'en suis super content aujourd'hui.
À quel moment est-ce que vous avez pris conscience du fait que cette sensibilité-là, c'était une particularité ou une forme de don?
Alors, j'étais un peu endormi, si vous voulez, jusqu'au moment où mon amie Marinette a contacté un faiseur de secrets, car mon chien a eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des genoux. Et il devait passer une opération. Et mon ami me dit « David, est-ce que tu veux que j'appelle un faiseur de secrets ?» Je n'en avais jamais entendu parler. Et j'étais tellement désespéré car il a eu vraiment beaucoup de complications aux articulations, plus précisément les ligaments, que je me suis dit, bon, qui ne tente rien à rien. Et de toute façon, comme je n'attendais rien, je me suis dit, vas-y. Elle l'a contacté, mon chien s'est fait opérer. Et les jours qui ont suivi, j'étais très étonné de la rapidité de son rétablissement. C'était incroyable. En connaissant l'historique de mon chien, on s'était dit, voilà, soit ça passe, soit on doit malheureusement l'amputer. Et c'était extraordinaire.
Qu'est-ce qu'elle vous en a dit de ce faiseur de secrets ? Comment elle le connaissait ?
Par rapport à une application qui s'appelle Le Secret, elle a regardé dans la liste des faiseurs les personnes qui pouvaient aider les animaux et cette personne est sortie et elle l'a appelée. Donc ça, c'était génial. Et un jour, quelques temps après, mon ami me dit « Est-ce que ça te dit de rencontrer cette personne ?» On peut l'inviter à déjeuner, je lui invite un café pour la remercier, car il faut savoir que les faiseurs de secrets exercent leurs dons gratuitement. Ils travaillent avec leur cœur, avec leur guide, avec qui ils travaillent, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Et j'ai eu cette chance de la rencontrer. Je peux te dire son nom, elle s'appelait Carole. Alors on s'est rencontrés dans un café, et elle m'intriguait, cette personne. J'étais mal à l'aise, si vous voulez, car cette personne me fixait beaucoup. Et à la fin de... On a fini notre café, on était sur le départ, et là, elle me dit « Bon, je peux te parler deux secondes ?»« Oui. Est-ce que tu te sens différent des autres ?» J'étais là... « Je vois pas, non. Il me semble que je suis comme tout le monde. » Et elle me répond « T'as un don. »« Ah bon ?» Je fais « Oui, oui, tu as un don. Cherche-le et tu trouveras. » « D'accord, très bien. » On est parti chacun de son côté. Moi, pendant les jours qu'on suivit, je réfléchissais, mais qu'est-ce que j'ai ? Non, je trouvais rien. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais l'appeler et je vais lui demander. Donc, on s'est revus dans un café et Carole me dit, David, t'as du magnétisme. Du magnétisme, c'est quoi ? Tu verras. Fais-toi confiance, tu verras. Et là, elle me fait, ton ami qui a fait appel à moi pour ton chien a des problèmes d'arthrose aux mains. Va la voir. J'étais très perplexe et je ne savais pas du tout ce que le magnétisme était. Donc, ok, je rentre à la maison tranquillement, j'appelle mon ami, je lui fais « Écoute, on peut se voir ?» Ok, très bien, je descends, parce qu'en plus d'être mon ami, on était voisins. Donc, je descends et je lui fais « Salut Marinette, apparemment tu as de l'arthrose aux mains. Alors, est-ce que je peux essayer ?» On s'est posé à la cuisine, elle a mis ses mains sur la table, et moi, je ne sais pas d'où c'est sorti, j'ai mis mes mains sur les siennes, à 5 cm de distance entre les siennes. Et là, il y a eu quelque chose qui était incroyable. J'ai commencé à sentir plein de picotements, du chaud, du froid. Ah, c'est indescriptible ce moment-là, quand on commence à sentir cette énergie. Et je suis resté comme ça. Et à un moment donné, j'avais plus du tout de sensation. J'ai levé les mains. Elle me dit « Waouh, c'est incroyable, tu m'as anesthésié les mains. » À ce moment-là, je me dis « Bon, elle est gentille. Elle veut pas me faire de la peine. Elle veut pas me dire « Écoute, David, t'es complètement zinzin. » Et pas me froisser. » Donc je me suis dit « Bon, j'ai fait ce que je devais faire. Les sensations étaient toutes nouvelles pour moi. » Mais je suis quand même resté avec cet état d'esprit que elle voulait pas me dire que, voilà, que j'étais fou, si vous voulez.
Vous vous sentiez comment, vous ?
Bizarre. Étant donné que moi, j'avais vraiment ressenti des choses dans les mains et que je pouvais pas mettre de mots sur ces sensations, c'était tellement incroyable que je me suis dit, ok, je me fais peut-être des idées, je ne connaissais rien du tout au magnétisme, je savais pas du tout ce que c'était, j'ai fait cette expérience et je suis resté comme ça, avec ça. Et quelques jours après, je suis allé manger chez ma maman et ma maman, en discutant, me dit « David, j'ai tellement mal
au pouce.
Je crois que j'ai de l'arthrose, ça me fait extrêmement mal. » Et je me suis dit « Bah tiens, je vais pouvoir retester. » Alors la même chose, ma maman pose ses mains, je remets mes mains. Et la même chose, cette sensation dans les mains de picotement, à un moment donné du chaud, du froid. Et j'ai attendu jusqu'à que je ne sente plus rien. J'ai enlevé les mains et ma maman me dit, c'est incroyable, tu m'as anesthésié. Et là, je commence à me dire, ok, la même chose aussi qu'avec Marinette, je me dis, ok, ma maman aussi, elle connaît pas non plus le magnétisme, elle connaît pas tout ce qui est faiseur de secrets et tout ce monde ésotérique, et elle a pas voulu me dire non plus et me faire de la peine en disant, David, je sais pas où tu vas, mais là, tu divagues. On en est resté là, et quelques jours après, je me suis dit, ok, je vais tester sur mon chien. Et j'ai testé sur sa jambe qui avait été opérée. Et ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose qui se passait, c'est qu'il a réagi tout de suite dès que j'ai posé les mains dessus. Il m'a regardé, il s'est couché, et c'était comme si, vas-y, exerce-toi, fais. Et je regardais un peu son poil et ses muscles, et il bougeait. Ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et de fil en aiguille, si vous voulez, bah, j'ai commencé à tester sur des amis, j'ai refait d'autres animaux, j'ai recontacté Carole et elle m'a dit « Écoute David, bah, c'est bien, tu as pris conscience, maintenant tu sais ce que c'est. Écoute, moi j'ai beaucoup d'appels, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble, que je t'envoie des gens, si tu veux, et on travaille à distance. Mais ça, je fais comment ? La même chose que tu fais en présentiel, tu peux le faire à distance. » Et on a un jour, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, voilà, j'ai cette personne-là qui a très mal, est-ce que tu peux l'aider ?» Elle a fait de son côté, j'ai fait du mien, et cette personne a eu... Les douleurs ont quasi disparu.
Qu'est-ce que vous saviez de cette personne quand elle vous appelle et qu'elle vous dit « J'ai cette personne qui a très mal », de quoi vous disposez comme information ?
Alors, on dispose du prénom, de la date de naissance et du lieu où vit la personne. C'est ces trois informations qui sont primordiales, si vous voulez, pour nous déjà savoir de qui on parle et d'envoyer le message en haut pour que tout s'ouvre, en fait. Et je l'ai fait pendant beaucoup de temps et à un moment donné, j'étais très fatigué. C'est que quand je commençais à faire le magnétisme à distance, étant donné que c'était des personnes que je ne connaissais pas et des pathologies que je ne connaissais pas non plus, comme l'eczéma, des crises urticaires et plein de problèmes de peau, et que je ne savais pas comment me protéger, j'ai eu l'effet boomerang, ça veut dire que j'avalais, si vous voulez, le mal de l'autre, et c'était mon corps à moi qui prenait la maladie. Je me rappellerai toujours que quelqu'un m'avait appelé car elle avait eu une sorte d'eczéma urticaire sous un dessin. Et le soir, avant de me coucher, donc je lui ai fait son soin. Je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain matin et j'avais des plaques sur toute la partie de la nuque derrière les omoplates. Alors que je ne suis pas allergique, je n'ai pas d'eczéma, je n'ai pas d'urticaire, c'était fou. Et là, je me suis magnétisé un petit peu tout seul pour calmer un peu tout ça, et c'est passé. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, bah, comme je ne connaissais pas comment se protéger et comment cela fonctionnait, à un moment donné, bah, Carole m'a dit « Écoute, David, je pense que tu es prêt, je vais te transmettre le secret. » C'est une prière, et cette prière va t'aider à soigner les gens sans que toi, tu aies besoin de faire du magnétisme. Ce n'est plus toi qui soignes, ce sera tes guides, la source, tes anges, qui que ce soit qui va pouvoir les aider. Tu sais, je t'avais donné un livre avec des prières. Lis un peu, et si t'as un passage qui te plaît, apprends-le par cœur, et le jour venu, je te dirai de l'utiliser et on verra si elle fonctionne.
C'était quoi ce livre ?
Le livre des prières. Des prières religieuses. Aux archanges, selon, si vous voulez, le domaine de guérison que vous souhaitez, il y a des prières aux anges bien spécifiques. Il y a le secret des brûlures, le secret des verrues, le secret des hémorragies, de l'eczéma, et c'est des gros paragraphes qu'il faut apprendre par cœur. Et moi, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer, en fait, c'est ce passage, et je l'ai appris par cœur. Et un jour, Carole m'appelle, elle me dit « Écoute, David, mon mari, il a très très mal au dos, est-ce que tu peux faire ta prière ?» Alors, je fais ma prière, je demande la guérison de son mari, et elle me rappelle un peu plus tard dans la journée, elle me dit « C'est bon, ça a marché, donc ta prière, tu peux l'utiliser, c'est ton secret. »
Là, vous avez quel âge à peu près ?
J'ai eu mes dons, j'avais 33 ans, et par la suite, j'ai trouvé une école qui s'appelle Au cœur de l'énergie à Genève, et je me suis inscrit à un cours de magnétisme, et là, j'étais avec des personnes qui était dans le magnétisme, qui avait la bienveillance, qui m'ont montré des techniques de protection, qui m'ont montré des passes. Et étant donné qu'on était plusieurs dans la salle à expérimenter ce don-là, bah, ça rassure en se disant, en fait, en gros, ouais, je ne suis pas tout seul. Et là, ça a été le détonateur pour que tout se passe mieux et mes dons, si vous voulez, ont continué à s'affiner.
À ce stade-là, vous en avez parlé autour de vous ?
Des amis proches, mais c'était compliqué, surtout que ils m'ont vu grandir, j'étais avec eux, et l'évolution, en fait, ils l'ont pas tout de suite compris au tout début, parce que je suis devenu beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, Quand je voulais les aider, j'avais beaucoup de non. Écoute, non, enfin, t'es dans une secte. Non, je suis pas dans une secte, j'appartiens à pas, je vais dans aucune réunion, je ne donne d'argent à personne et je ne reçois pas non plus d'argent. Donc ça a été très compliqué au tout début de faire comprendre ceci à mon entourage. Donc j'en ai pas parlé au tout début. Je me suis dit, si moi je suis dans l'expérimentation de mon don et que j'en discute avec quelqu'un qui n'y croit pas, je peux moi après me
vous freiner.
Exactement. Et moi, le plus important pour moi, c'était vraiment ce que pensait ma famille et surtout que c'est mes piliers. Donc, s'ils approuvaient pas ceci, j'aurais eu un peu de mal. Bon, ma maman, elle a toujours été très cartésienne, elle était très croyante aussi. J'avais l'impression qu'elle y croyait sans y croire. En fait, elle voulait, comme j'étais son fils, elle voulait pas trop. Elle me voyait bien, donc elle avait pas envie de détruire en fait le regain d'énergie que j'ai eu dès que j'ai expérimenté tout ça. Mais je voyais bien qu'elle avait un peu de scepticisme avec tout ça.
Et votre sœur ?
Ma sœur, quand j'avais découvert mes dons, c'était lors de la naissance de son premier enfant. Elle avait eu une césarienne et elle avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer. Elle avait extrêmement mal au ventre. Et je me suis dit, elle a mal, je vais essayer. J'ai posé mes mains dessus, elle m'a regardé. Et comme il y avait mon père qui était dans la salle, elle ne m'a rien dit du tout. Et quelques jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ouais, David, c'était incroyable, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur, ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pu plus me mouvoir. » Mais j'ai pas pu te le dire parce qu'il y avait papa dans la salle et je voulais pas qu'il te prenne pour un fou.
Et parce que lui, vous craignez son jugement ?
Ah lui, mais lui, il y croit pas du tout et je sais que lui, il dira carrément que je suis dans une secte. Pour lui, c'est on est là pour travailler, pour amener de l'argent à la maison et c'est tout ce qui compte en fait. Tout ce qui est autre croyance, c'était pas pour lui, il est vraiment de la vieille école. À un moment donné où il a commencé à me dire, voilà, j'ai mal au dos, j'ai plein de petites douleurs qui m'handicapent au quotidien. Je me suis dit, le magnétisme, je pense que c'est niet, ça va pas le faire avec mon père, il va dire non tout de suite. Donc je me suis dit, avec lui, je peux essayer le secret. Et je lui ai expliqué un petit peu, il me regardait avec des yeux abasourdis en disant, mon fils là, je sais pas où est-ce qu'il va. Mais il a dit, pourquoi pas. Et les douleurs, elles ont quand même diminué, mais il disait tout le temps la même chose. Ouais, mais c'est que les médicaments, ça aide. J'ai fait, oui, mais papa, les médicaments, tu les as pris pendant un certain temps, l'effet était le même, mais là, t'as quand même eu une différence. Oui. Mon père, je sais qu'il pense que c'est placebo et il y croit pas du tout.
À vos collègues, vous en avez parlé ?
Alors, non, parce que dans le milieu bancaire, c'est un peu compliqué. On a facilement des étiquettes et je la sentais pas avec cette équipe avec qui je travaillais à cette époque. J'étais déjà dans ma période où j'étais passé, où mes amis commençaient à accepter qui j'étais. Je me suis dit, si je dois recommencer la même chose avec mes collègues de travail, ça va me prendre une énergie débordante. Et je me suis dit, non. Je faisais tout ceci après mon travail ou le matin. Mais du moment où je me suis mis dans une application, dans la liste de Georges Delalleuil, là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'appels pour le secret. Et à un moment donné, mes pauses, je ne les prenais plus à me reposer, à aller boire un café. Non, je les prenais à aller dans une salle ou dans un salon pour faire le secret et répondre à mes téléphones. Et mon collègue avec qui je travaillais à côté de moi disait « Mais c'est hallucinant, t'as beaucoup d'appels, tu fais quoi ?»« Non, rien. » Ça a duré pendant un petit moment. Puis à un moment donné, il me fait « Non, mais David, il y a quoi ? T'es escorte ?» Et je me suis dit, c'est le moment de lui dire la facilité. Oui, je suis escorte. Pour rigoler, mais il a compris qu'il y avait bien quelque chose d'autre, mais j'ai jamais osé le lui dire. Et depuis ce jour-là, ça a coupé sa curiosité. Et jamais il a été plus loin, en fait. Et j'en ai pas du tout parlé à mes collègues directs.
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un tel tabou autour de ce sujet-là ?
Parce que les gens ont peur. De l'inconnu, si vous voulez, de l'invisible. Ils voient aussi beaucoup de personnes qui font la magie noire et des choses comme ceci. Et malheureusement, les personnes en ont peur. Mais du moment où ça fonctionne, les gens commencent un peu à se dire « Ok, il y a vraiment autre chose, en fait. On est autre chose que des êtres humains avec deux jambes, deux bras. On a un corps physique, un corps spirituel, on a un aura. » Et tout ceci, on l'apprend et ça nous aide beaucoup.
L'aura, comment vous le décririez ?
La couleur de l'aura est différente chez tout le monde, en fait, c'est coloré.
C'est coloré.
Oui. Il y en a certains qui le voient, parce que c'est une énergie, vous pouvez faire le test. Il y en a certains qui vont voir comme une sorte d'énergie ou de brouillard autour de la personne. La plupart du temps, bah, elle est blanche ou transparente, mais on voit qu'il y a quelque chose. Et moi, j'ai cette chance-là de pouvoir voir la couleur. Donc, c'est soit jaune, soit rouge, soit bleu, soit vert. Et c'est toujours des tons qui sont bien différents, et c'est pour ça que le taux vibratoire est très important. Parce que si on est négatif, eh ben, les couleurs elles sont un peu plus ternes. Alors que si on est bien, émotionnellement on est bien, on a confiance en soi, on s'aime. Surtout, le principal, c'est qu'on s'aime et qu'on s'accepte tel qu'on en est, avec ses défauts, avec ses qualités. La couleur, elle est fantastique. Et l'oreille est un peu plus large. Et je travaille justement dessus pour essayer de... Parce que c'est un travail de tous les jours, un don, on l'a, mais rien n'est acquis. La vie, c'est tout un apprentissage et c'est ça qui me fait plaisir. Et maintenant, je suis vraiment dans qu'est-ce que cette couleur signifie et comment je peux aider la personne justement pour qu'elle puisse avoir une couleur éclatante et qu'elle puisse être bien avec elle.
Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que j'entends ce que vous dites et en même temps, je vois le fait que même les hôpitaux ont des listes de faiseurs de secrets. Tout Donc, c'est que même la science n'a rien à perdre à faire essayer.
Exactement. Oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé en me disant « Voilà, c'est l'hôpital ou le pédiatre ou le médecin de mon enfant qui m'a donné votre nom pour tant des brûlures que pour des verrues. » J'ai d'autres personnes qui m'avaient expliqué que, voilà, que c'était même des fois les ambulanciers qui faisaient appel aux faiseurs de secrets pour apaiser la douleur du brûlé. Donc la médecine commence à s'ouvrir gentiment à tout ceci.
Et vous vous êtes sûrement retrouvé face à des gens qui vous ont dit « Mais en fait, tout ça, c'est une histoire de psychologie. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de source. Mm-hmm. Si on s'auto-convainc que quelqu'un nous aide, le cerveau peut beaucoup de choses aussi pour soi-même. »
Alors ça, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout des gens qui m'appelaient, pour qui, malheureusement, bah, ça arrive, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas parce que c'est mon secret ou parce que je n'ai pas posé mon attention, c'est que la personne de l'autre côté n'était pas prête à recevoir ses énergies et elle a fermé, ou au contraire, sa maladie ou sa douleur, il devait la vivre pour pouvoir avancer dans sa vie. Et pour l'effet placebo, du moment où on le fait sur les animaux, expliquez-moi où est le placebo. On m'a appelé pour une petite souris qui avait une blessure sous l'œil droit qui ne guérissait pas et sa plaie était très très profonde et... À chaque fois que ça s'améliorait, eh ben, ça le démangeait tellement qu'il se renlevait la croûte. Et les propriétaires étaient désespérés. Donc ils ont fait appel à moi, ils m'ont envoyé une photo de l'animal, car pour les animaux, j'ai besoin d'avoir une photo où je vois bien les yeux. Et il s'est avéré que la photo qu'elle m'a envoyée, c'était la photo, en plus je voyais la plaie. Donc j'ai posé mon intention, j'ai posé mon secret, et moi, toutes les personnes qui m'appellent, je les suis pendant une période de 9 jours, c'est le temps de matérialiser ma demande dans la matière. Et 3 jours après, parce que je fais toujours par étapes, 3, 6, 9, le 9e jour, c'est fini. Le 3e jour, elle m'envoie un message, elle me dit « c'est cool ». Ça commence à cicatriser un petit peu et elle se gratte moins. Le 6e jour, la même chose. Et le 9e jour, elle m'envoie une photo de la petite souris, il n'y a plus rien. Donc là, je me suis dit « ok, là, j'ai plus de doute ». Donc toutes les personnes qui me disent « c'est placebo », moi, je ne vais pas à leur rencontre. Je dis « si toi, tu penses que c'est un effet placebo, c'est très bien, pense ce que tu veux ». Je suis pas quelqu'un qui va aller à l'encontre de ses propres croyances. Moi, je sais, je n'ai rien à prouver, j'ai fait mes expériences et je sais qu'il y a quelque chose. Après, que tu crois ou que tu n'y crois pas, ça te regarde, moi, je ne doute plus. Avec tout ça, je ne doute plus. Il y a des personnes que j'ai aidées qui m'ont envoyé des cartes parce qu'à la fin des 9 jours, bah, ils se trouvaient que c'était tellement incroyable, ils souffraient depuis tellement de temps qu'au bout des 9 jours, elle me dit « c'est incroyable, j'ai plus rien, comment je peux faire pour vous remercier ?» Et étant donné que bah, le secret est gratuit, elle me dit « est-ce que je peux avoir votre adresse ? Est-ce que je peux vous envoyer du chocolat ?» Et je leur ai dit « vous avez envie de me faire un retour, un cadeau, un don du cœur ?» Je l'accepte avec grand plaisir et voilà, j'ai commencé à avoir plein de cartes, des dessins d'enfants, des chocolats, des bouteilles de vin, et surtout les cartes, les mots, ça me faisait frémir parce que j'étais tellement content de voir ces un remerciement, une bienveillance comme ça, enfin, c'était top. Et je me suis dit, ok, c'est tellement beau. Et il y a même quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'avait posé une question, il m'a dit, écoute, bon voilà, t'as ce don, tu m'as aidé. Et si un milliardaire vient et te dit, voilà, je te donne tout l'argent du monde, est-ce que tu lui donnerais ton secret? Et je lui ai fait non. Moi, ce que j'ai, ça n'a pas de prix. Je le garde, je préfère rester comme je suis, avec le bien que ça me fait, parce que pour moi, je suis millionnaire, milliardaire, comme vous voulez, de pouvoir aider les gens et de voir leur sourire ou leur carte, ou même les animaux qui avaient des problèmes de santé, qu'on me refasse des vidéos par la suite et on voit qu'ils sont tout heureux. Waouh, ça n'a pas de prix.
Mais ça prend un tel temps que je me demande comment on concilie aussi une vie privée. Vous étiez en couple, enfin, oui. Je veux dire, c'est quand même beaucoup d'énergie.
Au début, c'est vrai que j'étais quand même assez débordé parce que j'étais beaucoup trop dans le trop. Je voulais toujours aider les autres. Je m'étais un peu oublié. Le matin, je me levais, je faisais les prières pour toutes les personnes qui m'avaient écrit ou appelé la nuit d'avant. À midi, je rentrais, je faisais les prières. En plus, des fois, dans mes pauses café, je les faisais. Je rentrais le soir, je les faisais aussi. Donc au tout début, vu que j'étais tellement dans cette bienveillance et d'avoir envie d'aider les gens, et c'était tellement génial qu'on puisse soigner des personnes qu'on ne connaît, ni d'Adam ni d'Ève, j'ai pu aider des gens qui étaient à l'autre bout de la planète quand il y a eu le tsunami à Saint-Barth, et des choses comme ça. Qu'à un moment donné, en fait, j'avais plus de moments pour moi, car on ne se rend pas compte du nombre d'appels et de demandes qu'on peut avoir par jour. Douleurs verrues, on peut en avoir une trentaine par jour. Alors je vous laisse imaginer si vous êtes en train de faire votre travail et que vous avez votre téléphone qui sonne toutes les 10-15 minutes, c'est lourd. Et comme au tout début, je voulais tellement aider les gens, en fait, que je m'auto-stressais en me disant « mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse ». Donc c'était très pénible et très lourd. Et aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient irrespectueuses quand on nous appelait. Ils nous demandaient tout et n'importe quoi. Et ça aussi, ça fatigue. Quand on nous appelle, par exemple, à 11h ou minuit, « Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une verrue. » Alors qu'à ces heures-là, on est disponible. Il n'y a aucun souci pour tout ce qui est hémorragie, électrocution, voilà, danger de mort. Là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'heure. Donc, les toutes premières fois, je disais rien. Je prenais le message et je disais « Je ferai ça demain matin. » Et au bout d'un moment, je leur ai dit « Bonjour, votre verrue, elle est arrivée aujourd'hui ?»« Non, elle est arrivée à 11h du soir ?»« Non, elle est arrivée il y a bien longtemps. »« Oui, pourquoi vous attendez 11h du soir pour m'appeler ?» Et à un moment donné, j'étais très fatigué. Et la personne avec qui je vis, il m'a commencé à me dire « Ok, David, si tu peux aider les gens, si tu veux, mais il faut aussi que tu aies des moments à toi et pas trop prendre, parce que tu vas... c'est pas une course, c'est un marathon maintenant, parce que dès que tu as ouvert tout ça... Il va falloir que tu vives avec, donc ne te scie pas direct et que t'en aies marre et qu'une année après, tu te dises « Voilà, je veux sortir de l'application, je veux plus en entendre parler. »
Comment vous lui avez dit à lui, à votre conjoint ?
Lui, c'est passé comme une lettre à la poste. À la différence de moi, c'est que lui avait une personne dans sa famille qui avait déjà un don en Espagne. Donc ça ne lui a pas fait peur au moment où je lui ai dit, et j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que je connais d'autres faiseurs de secrets ou des personnes qui commencent à s'ouvrir à ce milieu-là, du moment où il y a d'autres manières de penser par rapport à qui nous sommes réellement, ça peut commencer à créer, si vous voulez, des distances entre le couple et le plus souvent des séparations. Alors que nous, au contraire, ça nous a beaucoup rapprochés.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux gens qui ne comprennent vraiment pas pourquoi on parle de ce sujet dans un podcast comme Brise-Glace, parce que c'est de la folie et c'est absurde ?
On ne demande pas d'y croire et de prendre tout au premier degré, mais de réaliser que ce que je fais et ce que d'autres personnes font, ça existe. On doit ne pas juger, accepter, et surtout, ne pas faire du mal à une personne bienveillante qui pourrait peut-être les aider. Et pour les personnes qui sont fermées à tout ceci, qui ne veulent pas briser la glace, et écoutez, ça n'appartient qu'à vous. Je ne juge pas. Chacun a ses propres croyances. J'ai aucune rancœur contre eux. La personne, le jour où elle en aura besoin, où elle fera l'expérience, peut-être qu'elle changera d'avis. Mais non, il n'y a aucun souci pour ça qu'ils n'y croient pas ou qu'ils disent que je suis fou. Ça leur appartient et je respecte. Comme eux respectent qu'il y a des personnes qui sont différentes. Et c'est justement la différence qui fait que ce monde, il est beau.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de notre stagiaire Léa Dubuc. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!